Ce livre, c'est 22 Mapesbury Road, écrit par un auteur britannique. En fait, c'est une journaliste britannique du nom de Rachel Cockrell, aux éditions de la Table Ronde. Difficile de lâcher ce livre parce que ce n'est pas un roman, ce n'est pas une biographie ni une autobiographie. C'est l'histoire d'une recherche familiale que Rachel Cockrell a entreprise en voulant savoir qui était le personnage, qui était d'ailleurs un portrait un peu bizarre qu'il y avait dans le salon de la famille. Et il apparaît que ce personnage, qui est venu d'Ukraine, alors dans l'Empire russe, juste avant la Première Guerre mondiale, était quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'histoire du judaïsme et du sionisme. Nous allons en apprendre beaucoup plus en parlant avec Rachel Cockrell. Rachel Cockrell, thank you for answering our questions today. You authored an extraordinary book translated in French under the title 22 Mapesbury Road, 22 Mapesbury Road, while in English the original title is Melting Point. Is that right?
That's right.
Now, there's a kind of tongue-in-cheek game of word between melting point and melting pot. What's the rationale behind that title?
Yeah, it's funny. I called my book Melting Point in English, but everyone likes to think that it's called Melting Pot. So all my emails say, your book, Melting Pot. I liked your book, Melting Pot. I tell people the title and they will repeat. I say, you know, it's called Melting Point, and they will repeat back to me 5 seconds later, Melting Pot, great title. Melting Pot is a phrase that was coined by Israel Zangwill, a British Jewish playwright and novelist, as a metaphor for America and for, I guess, any country where immigrants go and assimilate, melt into the melting pot. And really, that's what my book is about. You know, my family melted into the melting pot of London. Obviously the melting pot of New York is in this book.
The name Melting Pot for the United States became a staple. You know, it's everybody uses the melting pot for the United States, and everybody forgot that it came from Israel Zangwill.
That's right. And, you know, people tell me that they don't know who Israel Zangwill is, and yet they use his phrase every day. You know, I hear it now that I kind of become attuned to it. I hear it all the time on the radio, people talking to me, you know, in overheard conversations. This phrase, you know, America didn't have a way of talking about its own project of, you know, refugees coming and assimilating before Israel Zangwill started using this phrase in 1908. He was once the most famous Jewish playwright in the world, and is now, you know, he was called the Jewish Dickens. He was always on the front page of every newspaper, and he was sort of, you know, a Victorian celebrity. People would crowd towards him whenever he was in public places.
Rachel, would you say he was the most famous Jewish playwright or the most famous British playwright of the time?
Well, I don't know. I mean, this is one of the things I wish I could time travel back to 1900 and sort of see for myself. Some people have called him the most famous Jewish writer in the world in his time, even in 1900. Some people call him, you know, there are all sorts, the most famous Jewish person in the English speaking world, some people call him. So yeah, he was really a household name and hugely famous.
Rachel, we'll get back to Israel Zangwill later in the show. First of all, I'd like to find out what triggered your writing of it's not a novel, but it's a research about your family. You're very young. It's not at that age that people try to track down their ancestors.
This book is partly, I like to think, a sort of work of, maybe scholarship is a strong word, but it's a work of history about early Zionism in part, and then also a book about my family. I started with the story of my grandmother, who raised her children together with her sister and her sister's children in this giant sort of crumbling house in North London, 22 Mapesbury Road. And I wanted to tell the story of how and why this Russian Jewish family came to England when they did, which was just before the outbreak of World War One. And that led me back to my grandmother's father, my great grandfather, who was an early Zionist and then left the Zionist movement to find an alternative promised land. He worked with Israel Zangwill, and they had the motto, "If we cannot get the holy land, we can make another land holy." And that led me back to the founding of Zionism. So, like every family, my family had these sort of strange interconnections with world history and the history that we read about in history books. Every family is sort of intertwined with world events. I guess if I had, and I think there are hundreds, I don't know how many individual voices in this book, individual sources that I found, maybe 1,000, I'm not sure. And if I had known at the start the mountain of archival material I would end up going through, really an insane amount of archival material I went through, I think I would have been sort of too intimidated to start. But it was such fun reading all these old newspapers from 1900, reading people's sort of quite self-aggrandizing diaries from from 150 years ago that are in these books which are totally out of print and no one remembers who these people are, but they were sort of the main character of their own lives, and people wrote so beautifully in 1900. So it was a real joy to sort of time travel back to this, to this other era.
So let's get back to the history of your family. Family stems from a certain David Jochelman, which probably was called in the UK David Jockelman or something like that. He was married twice, if I read your family tree correctly, with the first wife. They had one son called Emmanuel, and this son ended up in the US, actually. And the second wife he married had two daughters who came to the UK, and one married a certain Hugh Cockerill, and you're the sign of this family. And the other family, Sonia, the other sister Sonia, married a Jewish refugee also from the eastern part of Europe, and they ended up in Palestine and in Israel. So, what happened when you discovered the history of your family? Were you aware of anything about who was David Jockelman?
No, he the first I d read of him was his obituary in the New York Times. He died in 1941, and everyone in my family had always, if they mentioned him ever, it was that he was a sort of quite boring man, a businessman maybe involved in stocks and shares, but that was about it. People in my family sort of wrote him off as not even worth considering. And actually, he was by far the most interesting and dramatic member of my family. I discovered his whole story and the way he, his dramatic life story. And yeah, he there was also a portrait of him in 22 Mapes We Wrote. It's still there. It's sort of this quite gloomy portrait.
There's a reproduction in your book, actually.
Yeah. It was probably done in the 20s or 30s, and it has all these layers of dust. No one's ever cleaned it. And that felt like a kind of metaphor that he was obscure in this portrait. He was sort of drowning in darkness, and that was really how he was for his own family. So I didn't know any of this. I didn't even really think about my Jewish roots. But really, going through life, I had tunnel vision. I didn't think about anyone apart from myself, really, occasionally some siblings and parents. But I just, yeah, I kind of thought that the whole past and all my ancestors were just a lead up to now, to the 21st century, and everyone in the past was sort of black and white and two-dimensional and not worth thinking about.
Rachel, do you have a clue about what could be the reason why your family obscured the real history of David Jockelman?
I mean, this is something that we've talked about in my family. Was there, what was my grandmother and her sister, did they feel strange about about their father's links with Zionism? Or but actually, I think it wasn't as deep as that. I think that his work for the Galveston movement of sending Jews to Texas happened before World War I and in the Russian Empire. And then this family moved to London, and I think post World War I life in London, it was as if the pre-war time belonged to a lost world. It was just another era. And it's like kind of today, the way when we think of pre-pandemic, it almost seems so far away that it's not even sort of present and alive for us anymore.
So, Hugh Cockerill, who married Fanny, the daughter of David Yockerman, who came from Ukraine, then part of the Russian Empire. Was he comfortable with all this chaotic family, Jewish family?
Some people in my family said that it was as if he had accidentally married into a family of Russian Jewish immigrants, that he seemed sort of out of place in his own house. And it was really, you know, we think of maybe an immigrant arriving somewhere and being sort of out of place there. He was an Englishman and he was out of place in this English house. I think he was so reserved. He also was so in love with his wife, my grandmother, Granny Fanny. But also very reserved. So he sort of took it as his lot in life that he went to work every day and then came home to this chaos. And unlike his colleagues who probably came home to a nice little housewife serving dinner on the table, you know, Fanny was off doing something and there were kids running around. And so apparently he just sort of retreated to his study, and that was that.
And suddenly you discovered during research your aunt Jo in Canada. Can you tell us how you found her and who she was?
Yes, as you mentioned, my great-grandfather had been married before my great-grandmother, and he had a son, Emmanuel Jockelman, who had gone to America just 6 months after the sinking of the Titanic. He'd crossed the Atlantic. And Emmanuel Jockelman became an experimental playwright in New York, changed his name to M. Joe Bache, a kind of unspellable and unpronounceable name. Married a Southern Belle actress who had acted in his plays, and they had a daughter in 1930. And the Southern Belle said, "Shall we name her Jane?" And he said, "I've got a better idea. Let's name her M. Joe Bache the Second." And M. Joe Bache the Second, born in
Which is a
1930,
funny name. It's neither male nor female.
exactly, it's a unisex name in 1930. She said she loved her father, but she couldn't believe she had been saddled with that name. I obviously, didn't know who she was, but my dad said, "Oh, I remember M. Jo Bache. She came to visit us in London in 1950." So I called M. Jo Bache the Second, and she had all these memories of growing up in the melting pot of New York in the 30s. And also of 22 Mapesbury Road in the 50s, sort of from an outsider's perspective. So she was just, as soon as I called her, it was as if she had been waiting all these years for my call. All these stories came out just perfectly formed.
Okay, getting back to your part of the family and the relation with Israel Zangwill, when you discovered that, what did you feel?
Well, so I found a letter from Zangwill to my great grandfather just as World War I was about to break out, saying, "Jockelman, you must now leave the Russian Empire and come to London. Your future belongs to England. Your daughters are destined to become English," which in the end turned out to be true. My grandmother did really become more English than the English. And so to know that this, I keep on using this word forgotten, all these sort of forgotten figures. This forgotten writer shaped the fate of my family and shaped, my own existence. I kind of felt so close to him and, writing this book, reading so much about him, spending 3 years reading about him, he kind of came alive for me and became sort of my favorite character in this book. He was apparently the worst dressed man in London and the ugliest man in the world, and yet sort of hugely beloved because he was so clever and so funny.
Married to a beautiful woman.
Married to a beautiful Gentile, he always talked about the fact that it was so sad that Jewish people married out, and then he did the same. He was always contradicting his own sort of grand statements. So I have a real fondness for Zangwill.
I heard you went to Galveston. What did you meet there? What did you see there?
I did. I've been twice now. I went once during the research and I met the rabbi of Galveston, and we had fish tacos on Galveston Beach. And his wife was actually descended from Jews who had immigrated to Galveston during the Galveston movement. So to know that
Thanks to your family.
exactly, her grandfather and my great grandfather probably knew each other. And it's strange to think of, all these people walking around who are descended from people who knew your ancestors, that we're all not just connected in the present, but connected in the past as
And
well.
it's not just only a few people. It's over 10,000 Jews from Eastern Europe, mainly from Russia, who came to the United States through the port of Galveston, thanks to your family.
That's right. This movement, when I tell people I wrote a book about Russian 10,000 Russian Jews going to Texas, their first question is it a novel? People can't believe that it sounds so strange. These immigrants, when they arrived, speaking only Yiddish, wearing their sort of heavy coats and things, quickly took their coats off, put on cowboy boots and cowboy hats, and sent postcards home in Yiddish to the Russian Empire saying, Texas is great, you should come here. It seems quite a surreal thing, but the Jews in Texas say, oh, of course we know about the Galveston movement.
So what happened to those Jews?
They spread out across America, and I mean, they did melt into the melting pot to some degree, but then, also they created this new thing, the Texan Jew, and I guess they sort of formed what it is to be an American Jew. I mean, yeah, it's kind of bittersweet because they did melt into the melting pot, but they also got saved from Russia.
Rachel Cockrell, your book, 22 Mapesbury Road, is really a gem. Thank you for having written that. Thank you for talking to us.
Thank you so much, Michael.
Myriam Anderson, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, comment êtes-vous tombée sur ce livre, 22 Mapesbury Road?
J'ai aucun mérite. L'éditrice Alice Déon des éditions de la Table Ronde m'a appelée un jour en me demandant où j'en étais avec la traduction, parce qu'elle avait un projet dont elle imaginait qu'il pouvait m'aller. Et je l'ai découvert en le lisant. Et ça a été une surprise assez incroyable. Elle m'a dit, tu verras, c'est un peu particulier. C'est une forme très spéciale. Elle m'en a pas beaucoup parlé pour me laisser le plaisir de le découvrir, j'imagine. Et surtout, je l'ai lu comme on ne fait pas toujours. C'est-à-dire, j'ai lu en commençant par la préface. Et je pense que c'est indispensable avec ce livre-là, puisque là, Rachel Cockrell offre une préface qui est une véritable feuille de route. Et c'est la dernière fois avant longtemps qu'on entendra sa voix dans le livre. Donc, c'est particulièrement précieux.
C'est quand même assez rare que qu'un auteur se préface lui-même.
Oui, alors effectivement, ce qui est de nature à nous mettre la puce à l'oreille, et elle dit je dans cette préface, et on comprend comment ce projet, qui est un projet au départ d'essayer de partir à la recherche de la mémoire familiale trouée, manquante, on va dire, prend conscience de l'étendue de son ignorance et devient un livre d'histoire au sens large du terme, puisque c'est parce qu'elle se rend compte de tout ce qu'elle ne sait pas. Au départ, elle part parce qu'elle veut raconter l'histoire de sa grand-mère et de sa sœur qui ont vécu quasiment dans une sorte de communauté informelle et familiale et qui ont, dans cette grande maison où elle-même a grandi, ont élevé tous leurs enfants ensemble. Et c'est vraiment parce qu'elle se dit qu'elle devrait peut-être se demander comment cette famille d'origine juive ukrainienne est arrivée à Londres, qu'elle se souvient aussi d'un portrait sous lequel elle a grandi, très sombre, assez mystérieux, de l'arrière-grand-père, donc du père de ces deux femmes, dont on dit vaguement qu'il est dans les affaires, dans la banque. Enfin, c'est assez finalement banal, comme dans toutes les familles où on oublie de poser des questions avant que les gens meurent et qu'on garde comme ça une toute petite légende sur la famille. Ah, ça, c'est l'arrière-grand-père banquier. Et elle se dit peut-être que je dois me poser cette question de savoir comment ils sont arrivés là. Et c'est dès ce moment-là que le livre prend un tout autre chemin. Une fois qu'elle réalise ça, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un livre assez classique de recherche où il y a énormément de documentation et donc elle essaye de mettre en scène cette documentation. Et c'est vrai qu'elle, c'est ce qu'elle raconte dans sa préface, que très vite, quand elle se relit, elle trouve que sa propre voix off, ce qu'elle appelle sa propre voix off, sonne faux. Qu'elle peut toujours être remplacée avantageusement par la source elle-même, et elle finit par chasser complètement sa voix off du livre. C'est-à-dire qu'effectivement, son travail à elle est dans le montage habile, chirurgical, le mixage de toutes ces voix. Ces voix sont souvent écrites, pas toujours, puisque vers la deuxième partie du livre, à partir du moment où elle peut parler à des témoins directs, ce sont des conversations aussi rapportées, effectivement, mais un peu plus à la, on va dire, Alexievitch, quoi, avec ces voix qui résonnent et qui sont des voix de la pour le coup, de cette famille. Mais pendant une grosse moitié du livre, effectivement, elle fait un travail absolument vertigineux de montage, de coupe, de mixage, et avec une fluidité, c'est-à-dire qu'elle construit une narration avec la voix des autres.
En citant ses sources, elle dit aussi, elle cite une autre source qui dit, il ne faut jamais faire confiance aux témoins.
Absolument. Et c'est ça qui est très beau parce que c'est un livre sur la mémoire perdue et c'est un livre sur la mémoire terriblement peu fiable. C'est l'histoire du narrateur peu fiable, finalement. Et à vrai dire, c'est là que ça vient interroger qu'est-ce que c'est que l'histoire? Qu'est-ce que c'est que l'histoire historique? Qu'est-ce que c'est que faire œuvre d'historien? C'est une histoire qui nous plonge dans le présent de l'histoire parmi ses participants, parmi les gens qui l'ont vécu, en vérité. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est passionnant et qu'on s'ennuie à aucun moment. Et après, pour la fluidité, c'est effectivement ce travail de montage avec des clins d'œil, des jeux d'écho, y compris entre les différentes parties.
Myriam Anderson, je voudrais qu'on dise un mot sur la réception de ce livre en France. Il m'a été dit de bonnes sources que beaucoup de libraires avaient refusé de le mettre en place parce qu'il parlait de l'histoire, quelque part, de la genèse du sionisme moderne et que ce n'était pas le moment. Est-ce que vous êtes au courant?
Ouais, j'ai ouï dire la même chose. Je crois même que je ne suis pas sûre que les libraires en question soient allés jusqu'à argumenter à ce point-là. Vous savez, quand un représentant vient vous voir en tant que libraire et vous passe le catalogue de plusieurs maisons diffusées, c'est assez rapide de dire non, mais là, ça, je vais faire l'impasse. C'est plus de cela. Après, oui, on a envie de se dire que c'est de cet ordre-là que le motionnisme aujourd'hui est devenu un mot, est devenu une allumette, et que pas mal de libraires ont préféré ne pas s'intéresser à cette histoire en ce moment sans en savoir quoi que ce soit. Je pense que le motionnisme a fait effet vraiment juste effectivement, d'étincelles. Comme de toute façon, il y a trop de livres, ils n'ont pas la place et ils ne peuvent pas s'intéresser à tout. C'est quelque chose d'un peu plus silencieux. On a regardé ailleurs. En fait, il se passe un petit peu avec ce livre ce qui s'est passé pendant des années avec l'histoire de l'arrière-grand-père au sein même de la famille. Elle était là, mais on n'a pas vraiment regardé.
Oui,
Bon, c'est en
sauf que
train de s'arranger un
grâce à
petit peu.
Myriam Anderson et grâce à la traduction française donc, de ce livre, 22 Mapsbury Road, les gens vont pouvoir le lire et je suis sûr qu'à la suite de cette émission qu'ils vont regarder, ils le feront avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Myriam Anderson.
Merci à vous.
Marie Brunet Spire, bonjour.
Bonjour.
Vous avez entendu en partie ce que nous disait Myriam Anderson sur la façon dont Rachel Coquerel a été amenée à découvrir que ce portrait, en fait, était celui non pas d'un simple petit homme d'affaires venu de Kiev vivre sa vie en Angleterre et s'y établir, mais qu'il avait une place importante dans l'histoire du sionisme. Et dans cette histoire du sionisme et dans cette histoire que Rachel Coquerel découvre au détour de l'histoire de sa famille, il y a des noms qui surgissent et qui semblent quand même assez étonnants.
Elle remonte l'histoire à l'envers.
Elle montre l'histoire à l'envers, elle est une histoire dont elle ne savait absolument rien. Et ses noms, c'est Herzl, entre autres, et Zangwill. Alors, je vous ai invité, Marie Brunet-Spire, parce que vous êtes, entre autres, la traductrice de Zangwill, qui est un personnage qui est, de nos jours, on peut le dire sans honte, totalement oublié.
Oui, c'est pour ça que j'ai eu tant de mal à le faire publier.
Et alors, qui était Zangwill en son temps?
Zangwill a été un personnage qui a été l'un des tout premiers best-sellers. Son livre Les Enfants du Ghetto est paru, c'était son premier vraiment roman, qui n'est pas un roman d'ailleurs, il est sous-titré comme Étude d'un peuple singulier, Les Enfants du Ghetto.
Une litote.
Et Les Enfants du Ghetto a paru à Londres en 1892. Et ça a été un best-seller absolu. Il est sorti à plus de 100 000 exemplaires à l'époque, dans les années qui ont précédé au tournant du siècle 1900, et qui est tombé dans un oubli total. Mais tous les gens qui ont vécu, les Français, Israélites, Français, qui ont vécu la première moitié du XXe siècle, connaissaient Zangwill. Et puis il est tombé totalement, avec la guerre, il est tombé totalement dans l'oubli.
Alors il faut dire que Non seulement il était connu en Angleterre, mais il était connu aussi aux États-Unis. D'où vient sa gloire
Il a été l'enfant terrible du ghetto. Quand il parle des enfants du ghetto, en fait, le ghetto, c'est le Londres, c'est le Whitechapel, le monde de l'immigration, le prolétariat juif, issu des grands mouvements d'émigration d'Europe centrale et orientale. Et il y a eu plus de 100 000 juifs émigrés à Londres à une certaine époque. C'était considéré par certains comme une invasion et ça a été un shtetl à Londres, alors qu'il y avait aussi une émigration sfarade qui a été très connue. Bon, on parle de d'Israélites,
Israélien.
il y a les Montefiore aussi.
Mais comment se fait-il qu'il ait été tellement connu en dehors des milieux juifs?
Il a voulu être un écrivain non juif et il a une immense œuvre. Moi, je privilégie pour plein de raisons sa série qui parle des enfants du ghetto, les tragédies du ghetto, les rêveurs du ghetto, qui s'est terminée cette série d'environ 5 gros romans ou anthologies de nouvelles, s'est terminée par les comédies du ghetto en 1907. Donc, entre 1992 et 1907, il y a une série de nouvelles ou de romans qui sont autour du thème du juif dans la cité moderne de l'époque.
Et alors son succès était vraiment exceptionnel.
Absolument exceptionnel, mais il était aussi un anglais, auteur anglais, et c'était ça. Son ambition était de devenir un auteur à la fois un auteur juif, mais aussi un auteur anglais.
Et à son époque, il avait réussi. Ses pièces étaient montées dans le monde entier.
Alors, il a écrit beaucoup de pièces, dont une dont on va être obligé de reparler, qui est The Melting Pot, qui a laissé cette expression melting pot de
Creuser.
creuset des nations pour l'Amérique. Et c'est là où, en
C'est de
fait,
lui, ce terme?
mais le, c'est le titre d'une pièce de théâtre qui a été créée en 1908 à Washington, en présence du président Roosevelt, qui a lancé la pièce. Le Melting Pot est une pièce qui appelle à la réconciliation des peuples. C'est une espèce de Roméo et Juliette entre le fils d'un réfugié russe et d'une fille qui est la fille d'un tortionnaire qui a torturé des juifs. Et le fils, le réfugié et la fille du tortionnaire se marient. C'est une grande histoire d'amour. Enfin, c'est Roméo et Juliette voilà.
C'était osé,
C'était
en pleine époque des pogroms
c'était
de la
osé,
Russie
et en
tsariste.
même temps, c'était l'appel à une réconciliation des peuples, à une assimilation, alors que Zangwill était quand même le premier sioniste qui a, on va en reparler, je pense, fait scission avec Herzl, avec son idée d'un sionisme sans Sion, par rapport à Herzl, pour qui la Palestine a été le rêve.
Alors, avant d'en arriver à la scission, il faut peut-être commencer par le début, à savoir que
C'est
Herzl, journaliste de renom, qui avait cette idée en tête de faire revivre une patrie juive, un état des juifs, est allé voir Zangwill à Londres parce que Zangwill était le juif le plus connu, en fait.
Alors, cette réunion s'est faite sous les auspices de Max Nordau,
Docteur Nordau.
Docteur Nordau, qui était le compagnon de Herzl au premier congrès sioniste. Mais avant ça, Nordau a dit à Herzl, puisque vous allez à Londres, eh bien, allez rencontrer Zangwill. Et il arrive à Zang il s'est raconté non seulement dans les mémoires de Herzl, et aussi Zangwill dit, un jour j'ai vu apparaître ce magnifique Assyrien à barbe légendaire qui vient me dire: aidez-moi à reconstruire un État juif, l'État juif.
Alors, qu'est-ce qu'il attendait de Zangwill?
Zangwill était déjà très connu, et très connu pour son œuvre juive. Et il s'est mêlé au mouvement sioniste et ils ont fait compagnonnage. Mais Herzl, comme vous savez, est mort en 1904. Et à ce moment-là, tout le banc et l'arrière-banc du sionisme, des délégués sionistes au congrès de Bâle, après la mort de Herzl, se sont tous ralliés à l'idée d'une Palestine qui ne serait que la terre de Sion. On en était à envisager beaucoup de possibilités pour un foyer national, autonome, juif, quelque part dans le monde.
Ouganda, Kenya, Madagascar.
Ouganda, c'était pas l'Ouganda, c'était le Kenya. Il y a eu la Cyrénaïque, il y a eu Madagascar, il y a eu un éventail de possibilités ouvertes, et sans se focaliser uniquement sur Sion. Et à la mort de Herzl, absolument hystérie et panique chez les délégués. Et l'idée de Palestine-Sion est la seule qui a survécu. Et à ce moment-là, Zangwill a fait scission avec son ami Herzl. Et ils ont dit, on va envisager un sionisme et Zionisme, un sionisme sans Sion et un sionisme avec Sion. Donc il y avait deux options, Sion et uniquement Sion, et la possibilité de s'établir où on pourrait trouver un consensus général. Et il y a eu beaucoup d'offres.
Et alors c'est là qu'intervient cette histoire de John Mann, avec le banquier Schiff à New York. Et il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que Schiff, déjà... avait estimé qu'il y avait suffisamment de juifs à New York à l'époque. Et alors c'est là que est germée cette idée de non pas de faire venir ces juifs à New York,
mais New York était plein. Et est-ce que vous vous rappelez du film qui a beaucoup plu dans nos jeunesses, Hester Street?
Oui.
Et ben c'était l'équivalent de Londres à Manhattan. Et c'était un shtetl installé. Donc, Monsieur Schiff a trouvé que le shtetl est commencé à déborder et commencé, quand il y a trop de juifs, bien sûr, les populations s'indignent. Et il fallait répartir cette population juive qui arrivait ailleurs. Et on a eu l'idée, c'est ce qui s'est appelé le Galveston Plan ou Project, qui était d'installer les Juifs, les faire venir dans une petite île qui est au sud du Texas et qui s'appelle Galveston. C'était un port. Et il avait cet avantage extraordinaire qu'il avait une compagnie de bateaux qui reliait Hambourg à ce point de Galveston. Donc, le monsieur Jockelman, qui était l'arrière-grand-père
de l'autrice, de Rachel Cockrell,
a été en fait le champion de cette émigration dont on voulait faire venir à peu près 20 000 juifs. Et en fait, il y en a eu une dizaine de milliers, mais qui sont arrivés et qui sont... L'idée, c'était de les répartir, pas de les laisser dans un nouveau shtetl à Galveston, mais qu'ils s'installent dans tous les États de l'Ouest et le Middle West américain. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais l'idée n'était pas de vivre comme on aurait pu imaginer une communauté autonome, mais que les gens allaient s'installer, s'assimiler, créer. Ben, et c'est ce qui est arrivé. L'arrière-grand-père de Rachel Cockrell a été l'artisan, avec Zangwill, de cette émigration, de faire de l'Amérique un melting pot, avec une réconciliation et une entrée aux États-Unis. Donc c'est un personnage extrêmement complexe, Zangwill, parce qu'il était à la fois le sioniste de la première heure, et en même temps, en 1908, le melting pot, salué par le président américain comme une pièce magnifique, il a été l'artisan de ce double engagement, et c'est très curieux.
Ce qui est aussi curieux, Marie Bonnet-Spire, et vous me l'avez appris, dans ce livre, Rêveur du ghetto, il y a un passage où Zangwill raconte le premier congrès sioniste mondial
Oui.
sur une dizaine de pages, et il y a juste quelque chose qui manque.
Le nom de Herzl, mais ça s'appelle Rêveur en congrès, et c'est une des nouvelles. Les Rêveurs du ghetto, c'est une anthologie de nouvelles avec des personnages juifs qui ont existé, mais la première et la dernière sont des personnages d'invention et de fiction. Et pour ceux qui connaissent bien Zangwill, il y a aussi dans cette. La dernière nouvelle s'appelle Hadgadia, et c'est l'histoire d'un jeune juif déjudaïsé qui revient à Pâques au moment de qui revient dans son ghetto de Venise au moment de la Pâques, et il a tellement parcouru l'Europe et appris l'atmosphère, la culture du monde, que revenant dans sa famille pour le soir de Pessah, il est complètement perdu. Et entendant par la fenêtre de sa famille le chant de Hadgadia, il se laisse couler.
C'est un des chants traditionnels de la fin du Seder de Pessah, et qui raconte l'histoire de l'agneau que le père avait acheté pour 3 zouzes.
Et donc, ne comprenant plus rien à sa propre culture, est-ce que c'était le judaïsme? Est-ce que c'était un avenir pour les juifs? Est-ce que c'était la culture de son passé? Ou est-ce que c'était s'ouvrir au monde et parler toutes les langues et toutes les cultures qu'il avait acquises? Il ne sait plus où il en est et il se laisse mourir et noyer dans le canal. Donc, c'est l'histoire d'un suicide. Le début est l'histoire d'un pogrom, et entre les deux, on a des quantités de personnages qui sont décrits. Il y a Heine, il y a Spinoza, il y a Uriel da Costa. C'est tout un monde, les rêveurs du ghetto. Voilà, c'est les rêveurs du peuple juif.
Israël Zangwill, traduit par Marie-Bonnette Spire en français. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous en avez traduit beaucoup d'autres de Zangwill.
Pas de ceux qui sont non concernés par ce qu'il appelle le ghetto, c'est-à-dire en fait le peuple juif.
Votre père, le poète André Spire, a eu une correspondance assez importante avec Zangwill.
Extrêmement importante, mais le conte Hadgadia, auquel je faisais allusion tout à l'heure, a été la première œuvre en français, en France, qui a été traduite en français et qui a été publiée par Charles Péguy dans les Cahiers de la Quinzaine en 1904. Et c'est là qu'on a eu la révélation de ce monsieur Zangwill, que personne ne connaissait, qui a eu une très grande influence sur les Juifs de l'époque.
En France aussi ?
En France aussi. À l'époque, Charles Péguy avait un très grand nombre de Juifs qui étaient abonnés au Cahier de la Quinzaine, et ce conte a fait absolument sensation. Et André Spire, qui était un des lecteurs et un des, on dirait aujourd'hui, followers de Charles Péguy, a été absolument sidéré par cette nouvelle, et il a commencé à écrire sur Zangwill. Et c'est lui qui a introduit Zangwill en France, jusqu'à écrire un livre sur lui en 1909, donc qui est assez parallèle à Au Melting Pot, qui rentre aussi dans la structure de son livre. Et Zangwill est vraiment un personnage qu'on connaît en France dans les années 1910.
Et qui a disparu.
Et qui a totalement disparu.
Jusqu'à ce que Marie Brunette Spire remette les mains sur certaines de ses œuvres et les traduisent en français.
Oui, les Enfants du ghetto sont parus après beaucoup de recherches. J'ai eu le grand plaisir de trouver un éditeur qui, pour le centenaire des Enfants du ghetto, l'a republié en France.
Marie Brunette Spire, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je rappelle le titre de l'ouvrage qui nous a réunis, 22 Mapplesbury Road, par Rachel Coquerel, aux éditions de la Table Ronde. À bientôt.
À bientôt.